France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Si je vous dis drac au feu, évoli, bulle bizarre, ronflex ou encore ectoplasma, vous me répondez attrapez-les tous. Les Pokémon auront 30 ans vendredi. Phénomène mondial de pop culture, c'est un business colossal. La franchise Pokémon, la plus rentable de l'histoire, dépasse les 126 milliards de dollars. Des cartes aux jeux vidéo en passant par les peluches. Si vous avez entre 10 et 35 ans, vous ne pouvez pas être passé à côté de ces monstres de poche. Ça veut dire aussi que vous avez sans doute passé le relais à vos enfants. Pokémon a connu des hauts et des bas, mais il a su se relancer et vous fidéliser. Entre quêtes initiatiques et collections, par exemple, une carte extrêmement rare, Pikachu Illustrator, a été vendue il y a quelques jours, 16,5 millions de dollars. C'est un peu la philatélie des générations Y et Z. 75 milliards de cartes auraient été écoulées depuis sa création dans plus de 90 pays et on en compte plus de 1000 différentes. Alors ils sont partout, dans ce spot de pub diffusé lors de la finale du Super Bowl aux États-Unis il y a quelques jours, où des athlètes et des artistes, de Lady Gaga au footballeur Lamine Yamal, disent face caméra quel est leur Pokémon préféré et vous invitent à partager le vôtre via Pokémon Go. Donc on part de là, on va aussi à se faire part de mariage à la manière de que m'a montré une des journalistes de la rédaction quand je lui ai parlé du sujet tout à l'heure. D'ailleurs, tous les trentenaires que j'ai croisés ici à France Inter poussaient de grands soupirs nostalgiques en y repensant. Alors moi, je dois vous avouer que ce n'est pas ma génération, donc je vais faire la candide. Mais j'ai envie de comprendre avec vous, au-delà de la puissance marketing des Pokémon, ce qui vous séduit, quel message ils véhiculent, pourquoi ils apparaissent parfois comme des refuges dans ce monde de brutes. C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et bonsoir Morgane.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Bah écoutez, nous on est ravis d'intervenir, c'est notre première fois et si vous pouviez voir ce que je suis en train de faire, je fais un puzzle Pokémon de 1000 pièces avec mon fils de 5 ans.
Oui.
Donc c'est une vraie aventure familiale, voilà, comme je disais, entre 5 et 45 ans. Nous, on l'utilise beaucoup à la maison, que ce soit dans des jeux de société, bah, évidemment les cartes, mais aussi voilà sur tout l'univers imaginatif, les boosters, ça nous sert aussi en récompense.
Mm-hmm. Et, il veut intervenir que, votre fils, je crois.
Voilà, oui. Et il voulait effectivement donner un petit mot pour vous donner quel était son Pokémon préféré.
Oui.
Du coup, Victor, est-ce que tu veux dire à la radio quel est ton Pokémon préféré?
Pikachu.
Ah, Pikachu, c'est le seul que je connais, ça tombe bien. Donc je plaisante. Morgane, donc pour vous, c'est vraiment un moment que vous partagez avec votre fils aussi?
C'est ça, voilà. Nous, on n'est pas du tout des experts, mais ça fait vraiment partie de notre quotidien, dans les déguisements, voilà, pour les carnavals, c'est souvent effectivement Pikachu qui revient en premier.
Mais vous avez grandi avec les Pokémon,
oui.
Vous-même?
Bah oui, moi j'ai bientôt 40 ans, donc j'ai grandi avec les Pokémon. À l'époque, c'était seulement sur la console. Et aujourd'hui, c'est plus une aventure, voilà, vraiment dans le quotidien. Alors, vous parlez de marketing, je pense que là, ils ont été forts là-dessus. Et puis, on n'a pas eu la carte à 16 millions, mais on a quelques petits trésors quand même. Du coup, c'est vrai que bon, c'est finalement la satisfaction après les centaines de paquets avec rien dedans. Mais on a un grand qui est pas là. Alors, on voulait faire une petite dédicace à Heidi qui doit écouter la radio, qui lui a beaucoup de chance. Et il a une carte avec une petite valeur de 300 euros. C'est un petit Pokémon Pikachu, je crois. Oui, quand même. Bon, bah, ça.
Bon, on va en parler tout à l'heure.
C'est une surprise.
Eh ben, c'est super. Merci d'avoir témoigné, Morgane. Pour en parler ce soir de ces Pokémon, avec moi en studio, Alvin Adaden. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un ancien journaliste, consultant indépendant auprès d'éditeurs de jeux vidéo avec le cabinet Bookloop et co-auteur avec Lou Lassina Foubert du livre Génération Pokémon. Plus de 20 ans d'évolution. C'était paru à l'époque en 2015. Hein.
C'est ça.
Nous sommes aussi en ligne avec Michael Stora. Bonsoir.
Bonsoir.
Psychologue, psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, auteur de « Et si les écrans nous soignaient ?», paru en 2018. Voilà, alors Morgane nous disait « Je fais un puzzle avec mon fils ». Alors là, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que c'est éminemment transgénérationnel.
C'est transgénérationnel, effectivement, et c'est vrai que Pokémon fête ses 30 ans cette semaine, donc les premiers parents Pokémon sont en train de transmettre à leurs enfants, et c'est vrai que la franchise est tellement safe, c'est un univers univers coloré, imaginaire, ça marche dans toutes les cultures, dans toutes les langues. Pokémon, c'est l'histoire d'un petit garçon, d'une petite fille qui un jour va dire à sa mère « Je pars à l'aventure pour devenir le meilleur dresseur ». Ça marche dans toutes les cultures et tous les enfants du monde peuvent s'identifier à ça, au fait de « bah oui, je veux avoir Pikachu et devenir le meilleur dresseur parce que je veux tout connaître ».
C'était ça l'idée en 1996 et ça reste encore l'idée aujourd'hui ou elle a évolué ?
Ça reste toujours ça, un jeu Pokémon, en tout cas les plus classiques, les épisodes de base de la série, c'est vraiment un jour, au lieu d'aller à l'école, le professeur du coin vous donne votre premier Pokémon et vous dit « allez tous les capturer ».
Et c'est une aventure qui commence. Michael Stora, transgénérationnel ?
Oui, évidemment, hein, c'est un, d'ailleurs, au fond, la dame qui a appelé avait 40 ans, et on se retrouve à voir des parents qui ont 40 ans, voire plus, qui eux-mêmes ont connu les Pokémon, la première licence qui était sur les Game Boy, et qui se retrouvent à partager maintenant avec leurs propres enfants, cette licence Nintendo. C'est un modèle, comme tous les premiers grands jeux, on fait maintenant, ce sont comme les Sims, comme d'autres jeux, c'est un like, c'est-à-dire, au fond, il n'a jamais été, il a servi de base pour d'autres types de jeux qui rassemblent un peu cette histoire de collection. Mais oui, c'est totalement intergénérationnel. Et face à ces formes d'inquiétude excessive concernant le jeu vidéo, c'est vrai que les licences Nintendo sont plutôt sympas, mais en général, voilà, on montre que il est possible de partager ce même plaisir d'un point de vue intergénérationnel.
Et on peut dire que c'est éducatif. Parce que Morgane nous disait, c'était... elle était en train de faire un puzzle avec son fils.
Oui, alors, c'est, à la base...
Voilà, c'est un prétexte, elle peut faire un puzzle sur n'importe quoi, elle n'a pas besoin des Pokémon.
C'est ça, oui. Mais c'est assez amusant, vous savez, par rapport à l'inquiétude concernant les jeux vidéo, il fallait toujours trouver une dimension éducative. C'est d'abord du plaisir, mais oui, j'ai entendu à l'époque où je travaillais sur l'introduction du jeu vidéo à l'école, hein, ça date, c'était sous Vincent Payon, et un prof utilisait les Pokémon dans ses cours de maths ou de chimie, parce que quand vous rentrez dans le détail, c'est assez complexe, hein. Vous avez des Pokémon eau, fer, etc. En les mélangeant, ça donne d'autres types de Pokémon. Donc, il y avait derrière toute une utilisation, comme ce qu'on dirait un jeu sérieux, pour pouvoir avoir une approche pédagogique. Et en soi, c'est tout à fait intéressant.
Une approche pédagogique, Alvin Adaden, vous êtes d'accord avec ça ?
C'est vrai que Pokémon, c'est un jeu qui valorise la connaissance. Pour être un bon dresseur de Pokémon, il faut connaître tous les Pokémon. Et ce que disait Michael Stora, il faut connaître leurs forces, leurs faiblesses. Les Pokémon d'eau sont faibles à l'électricité, les Pokémon de feu se font éteindre par l'eau. Et donc très jeune, moi je me rappelle en tout cas dans la cour d'école, c'est un âge où on adore le par cœur quand on est enfant. Et donc, c'est un âge où on peut très facilement accumuler toutes ces connaissances et le jeu le valorise. Celui qui connaît le mieux possible tous les Pokémon et tous les types peut s'en sortir.
Bonsoir Antoine.
Bonsoir Christelle. Bonsoir à vos invités. Bonsoir à tous.
Soyez le bienvenu. Alors vous, les Pokémon ?
Bah justement, j'écoutais à l'instant justement les discours de vos invités. C'est exactement ça que moi je ressens. Moi j'ai 31 ans, donc j'ai à peu près l'âge de la licence. J'ai vraiment grandi avec et elle m'a suivi tout au long de ma vie, tout au long de mon apprentissage aussi. On parlait de faire fonctionner la mémoire, du par cœur. Alors bon, aujourd'hui, des créatures, il y en a plus de 1000, donc c'est un peu compliqué de toutes les retenir, mais il y avait quelque chose de, finalement, de très valorisant dans le fait de comprendre comment les Pokémon fonctionnent, de gagner aussi, que ce soit aux jeux vidéo, aux jeux de cartes ou à tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et tous ces aspects-là, justement, nous suivent encore aujourd'hui et c'est ce qui est fabuleux, justement, je pense, avec cette licence.
Et vous continuez, vous collectionnez, vous ?
Alors, je collectionne, on essaye de collectionner, puisqu'on c'est parfois un petit peu difficile de mettre la main sur des cartes, ou même parfois sur des jeux, mais on continue de jouer, on continue d'y aller, même de temps en temps, hein, un petit paquet de cartes par-ci, par-là, ça rentre peut-être pas dans les dépenses mensuelles, mais on continue, et si c'est pas des cartes, bah c'est tout, il y a tout Pokémon aujourd'hui, des peluches, des cartes, même de la vaisselle, des puzzles, comme on avait tout à l'heure, j'en ai partout, moi j'en ai partout chez moi, parle en ce moment, j'en ai sous les yeux.
Ah oui, il y a un budget, il y a beaucoup de gens comme Antoine qui ont un vrai budget Pokémon, Alvin Adaden.
Ça m'étonnerait pas, c'est vrai que par exemple c'est un classique des voyages au Japon, beaucoup de gens qui pour la première fois vont au Japon et aiment bien les jeux vidéo et aiment Pokémon, là-bas vous avez des magasins dédiés à la franchise Pokémon avec plein de produits dérivés, et c'est vrai que c'est un énorme classique, il n'y a pas une fois où je suis allé au Japon où j'ai pas laissé pour au moins 80-100 euros en petites peluches, en petits petit lot, un petit souvenir, parce que tout est possible en termes de produits dérivés, et ça a été dès
ça
le début.
Fait, et ça fait une grosse somme à la fin, quand même.
Bien sûr, mais après, c'est une passion comme une autre. Après, c'est...
Non, mais ça veut dire qu'ils sont très très forts en marketing, quand même.
Ils sont très forts en marketing. En fait, ils ont trouvé une ligne directrice très tôt, c'est que dans l'univers de Pokémon, même dans le jeu en lui-même, les gens sont fans des Pokémon. Et tous les produits dérivés qui sont sortis, la première question qui se posait d'abord, c'est est-ce que dans l'univers de Pokémon, ces produits dérivés existeraient, parce que les gens pourraient acheter un Pikachu en peluche et imaginer ça. Donc ils ont créé très vite cet écosystème pour les fans, très cohérent, et en éliminant assez vite ce qui marchait, ce qui marchait pas, ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils pouvaient pas faire.
Alors Antoine nous disait, au fond, j'ai 31 ans et ça m'a suivi tout au long de mon apprentissage. C'est fréquent.
Oui.
On grandit avec eux.
Bien sûr, généralement ceux qui sont vraiment tombés dedans, ceux qui ont vraiment beaucoup joué, c'est très marquant. Alors c'est le souvenir d'enfance, et c'est vrai que c'est quelque chose très très générationnel, très gamer. On est peut-être les premières générations à pouvoir jouer toute notre vie au même jeu. D'habitude, avant les jeux vidéo, quand on grandissait, on arrêtait de jouer à ces jeux, et puis voilà.
Mais pourquoi on n'arrête pas avec les Pokémon alors?
Pour les Pokémon, parce qu'on veut toujours les attraper tous, parce que c'est sa petite collection, parce que c'est très personnel. Moi, je pense, je vois ce que je vous disais sur l'histoire d'apprentissage, sur le fait que ça marche dans toutes les cultures et toutes les langues. Et je pense que ça arrivait plein de fois, quand on a un coup de blues dans la vie, de pouvoir se dire, allez, vas-y, on réimagine, on relance une partie Pokémon, et puis on va essayer de faire l'équipe parfaite, on va essayer de battre le conseil cette fois-ci, et de pouvoir très facilement se projeter émotionnellement dedans. Et c'est normal d'être resté très attaché. C'était vraiment un très très bel univers qui a fait vraiment beaucoup rêver, puis qui était assez consensuel, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être familial, très riche, et en même temps pas simpliste pour autant.
On se projette émotionnellement, Michael Stora, je m'adresse au psychologue et au psychanalyste que vous êtes.
Alors, moi, j'ai imaginé en effet que le Pokémon, quand même, qui est un petit monstre, hein, donc il s'agit d'abord de capturer, puis après de le faire évoluer. Je crois qu'on est maintenant en termes de la troisième évolution, et je m'étais amusé parce que mon premier travail, c'était dans un jardin d'enfants, donc c'est des enfants qui ont à peu près 2-3 ans. Et parfois, vous savez, c'est un âge, ce qu'on appelle l'âge terrible. Là, c'est un peu un âge barbare,
oui.
Où l'enfant apprend à dire non.
C'est la première adolescence.
Oui, c'est ça. C'est une forme d'adolescence où les parents ne reconnaissent plus ce bébé tellement mignon. Il devient une sorte de petit monstre, une forme de Pokémon. Et je trouvais qu'il y avait dans l'idée que finalement, c'est un âge, vous savez, où la pulsion l'emporte sur le reste, sur la raison. Ce n'est qu'à partir de 7 ans. Et finalement, je trouvais qu'il y avait une dimension un peu du Pokémon, une sorte de projection que même l'enfant ou l'adolescent peut avoir, c'est-à-dire sur cet âge qui a l'air si pur, mais qui est en même temps un âge où, justement, on apprend à dire non. Et je trouvais qu'il y avait une forme de projection.
En fait, c'est moi, le petit monstre qui grandit, en fait.
C'est ça, complètement. Il y a une sorte de processus d'identification au Pokémon. Où on le fait évoluer, ses pouvoirs deviennent de plus en plus importants, sa taille évidemment aussi, et j'y voyais une sorte d'évolution jusqu'à finalement l'adolescence, le troisième niveau, qui est un niveau très impressionnant, où les monstres peuvent être, je sais pas, mesurer 20 mètres, comme une sorte justement d'expression pulsionnelle de ce qu'est l'adolescence, avec ce bouleversement des testostérones, etc. Et donc, j'y voyais une forme de projection. Mais ça, c'est le psychanalyste qui s'amuse aussi.
Oui.
Peut-être que ce n'est pas si innocent que cela.
Oui, et Antoine nous disait aussi tout à l'heure, donc non seulement ça m'a suivi tout au long de mon propre apprentissage, mais au fur et à mesure, c'était valorisant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Michael Stora?
Valorisant de...
De réussir, j'imagine, et de grandir et de franchir des étapes.
Mais oui, alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que les jeux vidéo, à travers la jouabilité, mais même au fond, le fait de passer d'un niveau à un deuxième, à un troisième, il vient comme marquer quelque chose d'un rituel qui parfois est terriblement flou. Et en plus, il vient vous sanctionner d'une récompense qui est parfois très impressionnante. Dans les jeux vidéo, hein, vous avez à chaque fois des étincelles dans tous les sens. Et finalement, on a besoin. La société a un peu oublié ces formes de passage, des ritualisations des passages qui font que quand on passe d'un niveau à un autre, on a envie d'être ritualisé. Et peut-être que c'est une des manières qui fait que le jeu vidéo, et entre autres les Pokémon, vient comme marquer ces formes de passage entre un âge et un autre.
Mmh. C'est une espèce de rite initiatique aussi, Alvin Adaden.
Oui, complètement. Et c'est vrai que la structure du jeu même le valorise. Dans le jeu, vous devez aller battre les meilleurs dresseurs. Mais avant de battre les meilleurs dresseurs, il faut réussir à vaincre 8 champions d'arène. Et donc, progressivement dans le jeu, on va effectivement, comme disait Michael Stora, rencontrer ces dresseurs d'élite et obtenir leur badge. Une fois qu'on a gagné le match dans l'arène, on obtient le badge, et une fois qu'on a les 8 badges, on peut aller se présenter face aux meilleurs dresseurs, et une fois qu'on les a combattus, on est officiellement le meilleur dresseur. C'est vrai que pour les enfants, ça marche très bien, ce côté progression, on la sent très bien.
Voilà, mais on peut quand même se retrouver en situation d'échec.
Bien sûr, mais c'est assez peu pénalisé. Dans l'univers de Pokémon, les Pokémon ne meurent pas, ils tombent KO.
Il
oui,
n'y a pas de violence, on précise.
Il
n'y
a pas de violence à l'écran, même quand il y a des combats de Pokémon à l'écran, ils lancent leurs attaques au loin, mais ils ne se touchent pas, on ne les voit pas, ça ne saigne pas.
C'est très imaginaire. On ne les voit pas morts, quoi.
Bien sûr, voilà, ils ne meurent pas.
Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai 50 ans, donc j'ai un peu plus de 50 ans, donc j'ai échappé un peu à la génération Pokémon. Par contre, j'ai vu que ça intéressait pas mal mes enfants. Et je me suis intéressé, moi, à l'aspect qui a été un peu évoqué par vos intervenants, mais pas assez à mon goût, oui. À l'aspect jeu de cartes à collectionner.
Oui, on va y venir, bien sûr.
C'est un jeu de société au départ, hein. C'est un jeu de cartes à collectionner où vous avez deux adversaires qui créent un deck, c'est-à-dire un groupe de cartes, et donc qui vont combattre l'un contre l'autre. Et moi, j'ai joué avec mes enfants sur l'aspect cartes, hein, avec les cartes à jouer, et puis aussi sur l'ordinateur, mais avec qui simule le jeu de cartes. Et j'ai trouvé qu'il y avait un aspect pédagogique vraiment intéressant, dans le sens où quand ils constituent leur deck, ils vont pouvoir jouer sur les probabilités, parce qu'il y a des cartes qu'ils veulent avoir sortir au hasard, etc., plus facilement. Donc il y a des probabilités, il y a les maths, puisqu'ils vont devoir compter en fait des points d'attaque et des points de vie. Il y a la lecture, puisqu'ils vont devoir aussi lire les effets des cartes pour pouvoir les utiliser. Et je trouvais qu'en fait, il y a la stratégie aussi, hein, qui est un peu qui reprend les maths et tout. Et je trouvais qu'il y avait un aspect pédagogique du jeu de cartes qui est vraiment la base des Pokémon, et qui est un petit peu sous-évalué aujourd'hui et qui est masqué par le marketing, par l'aspect collection, par l'aspect spéculation, par les jeux vidéo qui viennent un peu masquer ça. Et je trouvais que c'est dommage que ça, cet aspect-là, il soit sous-valorisé, quoi. Mmh. Donc moi, j'ai joué, je témoigne, parce que j'ai joué aux cartes papier avec mes enfants, et j'ai joué aussi à l'ordinateur qui simule le jeu de cartes, même à distance. Quand on était en vacances et moi pas, on pouvait jouer à distance en France. Voilà. Mmh. Je voulais apporter ce témoignage, puisque c'était l'usage de base des cartes Pokémon au départ.
Mmh. Donc c'est un jeu de société, hein. Fondamentalement, c'est un jeu de société, Alvin.
Oui, moi,
c'est vrai qu'on parle beaucoup des cartes pour la collection, et ça marche très très bien, et pour les sommes délirantes atteintes. Mais c'est vrai que malheureusement, sur peut-être 100 personnes qui collectionnent les cartes Pokémon, même pas peut-être 1 ou 2 ou 3% savent vraiment les règles du jeu de cartes et savent vraiment y jouer. Et c'est dommage, parce que donc, comme le dit notre auditeur, c'est vraiment un jeu intéressant, et c'est pas un habillage. Ils n'ont pas fait un petit jeu pour donner semblant, pour faire collecter. Non, il y a un vrai jeu intéressant à jouer, mais malheureusement, il n'a pas pris autant sur la popularité et sur le fait que les gens veulent d'abord essayer de capturer les Pokémon rares dans les boosters de cartes.
Alors, on a des réactions aussi sur l'appli France Inter. On a Samuel qui dit « Je sais, c'est peut-être ringard et un psychologue peut peut-être l'expliquer, mais je ne comprends pas comment les enfants peuvent prendre du plaisir à organiser des combats entre des animaux qu'ils aiment. » Michael Stora.
Écoutez, je crois que c'est assez amusant, parce qu'on, dans notre société actuelle, on a tendance à penser que les enfants sont sages comme des images, ce qui n'est pas le cas, hein, du tout. Les enfants, d'une manière globale, le jeu a toujours été un espace de mise en scène des pulsions agressives. Un enfant construit un Lego de 1 mètre, son grand plaisir, c'est de le faire tomber, etc., etc. Et même les petites filles, il leur arrive de sadiser leurs poupées. Donc je crois que nous, en psychologie, en pédopsie, on travaille beaucoup avec le jeu, parce que ça nous donne des infos. Donc pour moi, rien de plus banal que des enfants puissent s'amuser à élever des monstres, à les choyer pour qu'ils puissent combattre. Donc en effet, c'est pas un jeu violent, dans le sens de la violence graphique, mais ça reste, comme dans tous les bons jeux vidéo, un jeu d'affrontement. Comme dans certains jeux de société, on s'affronte. Et là, nous avons une mise en scène des affrontements qui en effet n'est pas sanguinolente. Mais je crois qu'il ne s'agit pas de mettre de côté cette dimension que dans tous les jeux vidéo, il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'affrontement, ce qui fait partie de de choses qui existent chez tous les êtres humains. Après, ça reste un espace de médiation, je pense que c'est important, et c'est un jeu. Donc, jouer, c'est faire comme si. Il ne s'agit pas de penser qu'on va le faire. Et même lorsqu'il y avait Pokémon Go, moi-même, j'y ai joué. Je suis ce qu'on appelle un petit gamer. Je voulais le confirmer, disons le dire.
Oui.
Et il m'est arrivé de chasser des Pokémon sur le divan de mon cabinet. Donc, c'est assez amusant de pouvoir jouer dans des espaces qui ne sont pas faits pour, quoi.
On fait une parenthèse sur Pokémon Go, quand même, Alvin Adaden, parce que ça a un peu relancé la marque, hein, si j'ose dire.
Effectivement.
Quand même, Pokémon a connu des hauts et des bas en 30 ans. Hein.
C'est vrai, après un démarrage extraordinaire dans les années 90, ça a un petit peu vivoté dans les années 2000. On n'en entendait plus beaucoup parler. Et alors, Nintendo continuait à faire sortir des jeux. Il y avait toujours un dessin animé à la télévision japonaise et même française, des films de cinéma qui sortaient une fois par an, mais il n'y avait plus autant d'engouement. La franchise vivait, elle était rentable. C'est clairement Pokémon Go en 2016.
Vous vous rappelez ce que c'est Pokémon Go pour les profanes ?
Bien sûr, Pokémon Go, c'est le jeu sur mobile qui était sorti donc en 2016, oui. Où on peut pour la première fois se balader dans son environnement et si vous vous baladez dans les rues, dans la forêt, dans la montagne, sur votre écran de téléphone, des Pokémon vont apparaître, vous allez pouvoir les capturer et c'est littéralement chercher à tous les attraper dans la vraie vie.
Et c'est comme ça qu'on a vu plein de gens dehors.
Et c'est pour ça, à l'été 2016, l'image de l'été 2016, c'est les gens en train de courir dans le parc du Luxembourg, en train de courir après les dracofeux dans le parc du Luxembourg. Et c'est vrai que le jeu était gratuit, c'est ça qui a beaucoup relancé. Avant, il fallait acheter le jeu sur console, donc il fallait une console et acheter le jeu. Pokémon Go était gratuit sur des téléphones que tout le monde possédait. Ça a permis de relancer la franchise et les revenus cette année-là ont été multipliés par 10. Et depuis, Pokémon se porte vraiment bien.
Et ça, on peut encore jouer avec Pokémon Go ?
Bien sûr, le jeu est toujours mis à jour, il est plus riche que jamais. C'est ça qui était drôle quand le jeu sort.
Il y en a encore qui continuent à chasser beaucoup dehors ?
On serait surpris. Il y a beaucoup de groupes Facebook locaux, c'est ça qui est très drôle. Pokémon Go, ça a un côté très social.
Oui, on va y venir aussi.
Où vraiment chaque ville va avoir son club de Pokémon Go avec 5 à 20, 30, 50 personnes qui vont chasser les Pokémon ensemble, connaissent les événements, se passent les infos. C'est très très social et avec des profils d'âge de 7 à 77 ans.
Allez, on va venir au collectionneur. Bonsoir, Mister Fuji.
Bonsoir, bonsoir.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes en direct de Tokyo. Vous êtes le patron des magasins Fujistore à Paris, Lille et Lyon. Il se trouve que vous êtes en ce moment à Tokyo. J'imagine que ce n'est pas tout à fait par hasard ou au moment du 30e anniversaire, non ?
On va dire que c'est un concours de circonstances avec l'anniversaire, les activités professionnelles et personnelles.
Mais voilà. Alors,
effectivement, les 30 ans ont motivé la venue.
Donc, vous vendez des cartes, vous rachetez des collections. Et vous déterminez aussi la valeur des cartes. Expliquez-nous quel est le profil de vos acheteurs.
Alors aujourd'hui, on a plusieurs profils. J'aime bien dire que nos clients ou les gens qui visitent nos boutiques, c'est un peu une photo de la France. On a des gens de 7 ans jusqu'à 77 ans, des experts, des gens qui ne s'y connaissent pas, des jeunes, des moins jeunes. Et tout profil, des collectionneurs, des investisseurs et autres.
Oui, vous nous disiez, pardon, je n'avais pas entendu la fin de votre phrase.
On disait qu'on a, tous les profils, on a des collectionneurs, on a des investisseurs, des amateurs, des parents qui accompagnent des enfants, des curieux, des gens qui ont entendu Pokémon, qui redécouvrent Pokémon, on n'a pas un profil type, vraiment.
Alors, moi, j'ai vu que vous avez fait paraître un baromètre Fujistore, vous avez fait une enquête auprès de vos clients. En général, ce sont quand même des urbains, des jeunes actifs, avec les moyens d'investir dans leur passion, quand même.
C'est vrai qu'on va retrouver un noyau qui représente ce type de personnes, ce qu'on appellerait aujourd'hui les kidultes, donc les enfants adultes.
Ça, il y a un gros marché sur les kidultes en ce moment, hein, sur le marché du jouet.
Absolument, absolument, oui. C'est la génération qui a de l'argent, qui commence à travailler ou qui travaille depuis 5, 10, 15 ans et qui veut se faire plaisir. Donc, il veut joindre l'utile à l'agréable avec Pokémon, que ce soit les cartes, les paquets de cartes et autres.
Alors, pourquoi sont-ils des collectionneurs ?
Je pense que c'est un tout. Déjà, il y a l'aspect Pokémon qui est un élément intrinsèque du jeu qui est d'aller chasser tous les Pokémon, c'est attraper-les tous. C'est le motto de la marque et du coup avec les cartes c'est un peu la même chose. On a pléthore de cartes, on peut aller chercher le Pokémon qu'on veut, on peut chercher la date qu'on souhaite, le type de rareté, est-ce que la carte est holographique ou pas. Et en fait avec cette proposition de cartes toutes différentes, tout collectionneur peut aller chercher un type de collection, soit collectionner un type de Pokémon, soit une série en particulière, soit une année en particulière, les 25 ans, là on va voir les 30 ans, ou une langue.
Là, il va y avoir une collection spéciale qui va sortir dans les prochains jours.
L'anniversaire, c'est vendredi, donc on soupçonne qu'il y aura beaucoup d'annonces. Pokémon Company, les éditeurs de Pokémon, ont d'ores et déjà prévu un événement en ligne où il y aura beaucoup d'annonces, et certainement de nouvelles cartes, oui.
Ça peut monter jusqu'à combien, une carte Pokémon, dans votre magasin, Mister Fuji ?
Aujourd'hui, une carte, on peut atteindre jusqu'à plus de 30 000 euros, voire même plus de 50 000 euros. Dernièrement, on a exposé une carte, qui est la Pikachu Illustrator, qui avoisine le million d'euros. Oh. C'est une carte très, très spéciale.
Et c'est dingue, parce qu'on a l'impression que ça devient presque des actifs financiers, Mister Fuji.
Bah absolument, ce sont des actifs financiers, ce sont des véhicules d'investissement pour certains des objets proposés sur le marché. Et c'est pour ça qu'on va avoir des personnes qui vont se diriger sur ces items-là, seulement pour l'investissement, ou il va y avoir des collectionneurs, comme on a dit en préambule, qui souhaitent joindre l'utile à l'agréable en collectionnant, mais tout en faisant attention à leurs finances, et en se disant que si un jour ils ont besoin de financer... une voiture, un appartement ou autre, ils peuvent céder leur collection et se dire qu'en regardant par exemple l'appartement fraîchement acquis, je n'ai plus ma collection, mais je pourrais toujours revivre à travers le nouveau lieu de résidence.
Ah ouais, non, mais alors là, je ne reviens pas à Alvin Adaden.
C'est vrai qu'il y a cet aspect quand on ouvre des paquets de cartes. Alors déjà, même c'est une décision. Il suffit, la demande est telle que acheter des boosters de cartes, donc c'est des petites pochettes de cartes non ouvertes, et juste les garder... De réussir à les avoir à la sortie et juste on les garde pendant 3 à 6 mois, elles peuvent multiplier par 2 ou multiplier par 3. Et c'est vrai que ce qu'il disait de l'utile et l'agréable, donc quand on ouvre le paquet de cartes, on a le suspense de trouver son Pokémon préféré qu'on aime bien et aussi le suspense de peut-être trouver une carte qui vaut 100, 500, 1000 euros et peut-être beaucoup plus dans le futur. Donc tout s'est un peu mélangé en même temps.
C'est extrêmement malin quand même.
C'est un très bon business model. En plus, on vend entre 8-9 euros pour 10 cartes, 10 bouts de carton à 8-9 euros. C'est un bon business.
Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Merci infiniment déjà pour vos émissions. Oui, je vous appelle parce que moi je suis de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que non seulement je suis totalement novice et profane dans les Pokémon,
je me sens moins seule.
Dans ma famille, j'ai la chance d'avoir deux merveilleux enfants, dont un petit Félix de 7 ans et demi, qui est donc évidemment complètement fou des Pokémon. Souris pas de temps en temps, aimerait bien aller s'acheter un petit paquet de cartes Pokémon au tabac du coin, parce que globalement c'est un petit kiff pour eux à leur âge. Et un tabac, deux tabacs, trois tabacs, une maison de presse, deux maisons de presse, c'est toujours la même réponse. Ah mais vous savez, lorsqu'on est livré d'un présentoir avec plusieurs paquets de cartes Pokémon, le blister encore autour, eh bien, on a des collectionneurs ou adultes qui se précipitent et qui achètent le présentoir entier avec le blister autour et qui, du coup, ne laissent aucune chance à ces pauvres petits chatons qui voudraient aller dépenser leurs sous de leur petite souris pour s'acheter un paquet de cartes Pokémon qui se rabattent sur des sortes de magazines avec des cartes qui sont offertes. Je trouvais que ça illustrait quand même pas mal. Alors, au-delà du fait que mon petit garçon est souvent déçu, mais que, bon, ils sont plein de ressources à cet âge-là, je voulais quand même souligner le fait que ça illustre le fait que ceux qui ont les moyens, du coup, d'acheter le présentoir entier avant même qu'il soit déplastifié, et ben c'est ceux qui ont commencé probablement il y a une trentaine d'années ou il y a une vingtaine d'années, à l'âge de mon fils, à moi, à adorer les Pokémon. Mais c'est vrai que j'avoue que parfois je suis un petit peu amère.
Oui, ça vous agace.
La loi du commerce. La loi du commerce, je pense, fait en sorte que la buraliste ou le buraliste ne peut pas. Ne peut pas refuser la vente. Oh
bah, j'imagine que tout est, tout est bien calibré.
Et quand je leur dis, mais vous pouvez pas en mettre au moins 10 paquets de côté, franchement, pour les gamins du quartier, c'est chouette, ils arrivent avec leurs premiers petits achats, vous voyez.
Oui, enfin, bien sûr. C'est intéressant ce que vous dites, Marie, parce qu'on a aussi un petit Lucien qui a 10 ans, qui nous a envoyé exactement le même message en disant, j'aimerais dire que les adultes achètent trop de paquets de cartes. Et du coup, on n'a plus trop de trucs à acheter, on n'a plus trop notre monde d'enfants finalement, il pourrait en laisser un peu pour nous aussi, je trouve. Alvin Adaden.
C'est vrai que c'est un vrai problème qu'ils ont avec le jeu de cartes, parce que en même temps, ils ne peuvent pas inonder le marché. Ils pourraient mettre plusieurs stratégies. Ou ils pourraient monter le prix des cartes pour, au bout d'un moment, si on arrive à 15, 16, 17, 18 euros le booster, on va peut-être réussir à équilibrer l'offre et la demande, mais ils ne veulent pas, ils veulent que ça reste un produit familial et accessible, notamment pour les enfants. Et en même temps, effectivement, quel que soit le volume de cartes qu'ils prévoient pour le lancement d'une nouvelle série de cartes, elles se font toujours dévaliser. Ils ont essayé un peu de le juguler
récemment.
Est-ce
que c'est une forme de pénurie organisée ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas honnêtement, parce que ce qu'on disait, sinon ils pourraient monter le prix, sinon ils pourraient organiser un peu la pénurie. Et c'est vrai qu'ils avaient fini par réagir il y a un an ou deux en disant que la radia avait été telle au lancement. Une demi-heure après le lancement, il n'y avait plus aucune carte disponible sur la nouvelle série qui venait de sortir, qu'ils ont tout de suite mis un communiqué de « n'allez pas tout de suite les mettre en vente sur Internet 2-3 fois plus cher, on va en réimprimer ». Ils essayent d'en réimprimer de temps en temps, mais ils n'arrivent pas à jauger exactement tellement la demande est forte.
Qu'est-ce que vous en dites, Mister Fuji ?
Oui, j'entends tout à fait la frustration de cette maman. Et il y a des professionnels comme nous-mêmes et même d'autres boutiques à travers le monde qui essayent en tout cas d'accompagner la Pokémon Company dans cette démarche. On peut limiter par exemple le nombre d'objets vendus par personne, on peut ouvrir ces fameuses boîtes et vendre qu'un paquet de boosters par personne, ou demander que les enfants soient accompagnés des parents, et à ce moment-là on vend qu'aux enfants, on alloue une partie aux enfants. Et ceux qui sont fidèles en général ont toujours la possibilité d'avoir un produit à la sortie. Mais même nous professionnels, on a du mal à se sourcer. Et je pense que la Pokémon Company, leurs outils de production sont tellement à plein régime qu'ils n'arrivent pas à fournir la demande mondiale, tout simplement.
Alors, il y a un autre aspect qu'on n'a pas encore, dont on n'a pas encore parlé dans cette émission, c'est le lien social que ça peut créer, ce jeu. Alors, il y a Céline qui nous a laissé un message, elle a 52 ans. Elle dit « Je joue à Pokémon Go depuis juillet 2016. Ce jeu m'a permis de rencontrer plein d'autres joueurs. Nous avons une réelle communauté de plus de 300 joueurs dans ma ville. Nous avons eu l'occasion de nous déplacer à Dortmund, à Berlin, en communauté pour ces événements. Ça permet de rencontrer des gens en dehors du travail. » J'avais pas pensé à cette dimension-là, Alvin Adaden.
C'est vrai que la dimension sociale dans Pokémon, elle est présente dès le premier jeu. Dans le tout premier jeu, il était prévu, le jeu était sorti en deux versions, rouge et verte, en France rouge et bleu, et on ne peut pas obtenir tous les Pokémon avec un seul jeu. Il faut obligatoirement échanger avec d'autres joueurs qui a l'autre version, si on veut obtenir tous les Pokémon. Donc dès le début, dès le concept, il y avait l'idée que les joueurs n'allaient pas juste se connecter pour se battre, ils allaient devoir échanger, qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Et c'est une valeur qui va très profondément au sens de Pokémon et qui font que Pokémon, ces belles valeurs qui ont beaucoup résonné chez beaucoup de personnes, parce que vraiment, ça valorise l'apprentissage, le travail en groupe, le collectif. Et Pokémon Go, c'est vrai que ça avait été un tel phénomène que plein de gens s'étaient organisés à des niveaux locaux pour faire des sorties ou même aller sur des événements dans le monde. Ouais.
Qu'en dit le psychologue que vous êtes, Michael Stora ?
Bah écoutez, oui, alors la collection est... Alors là, on n'est pas dans quelque chose de désordonné, au contraire, d'hyper ordonné. Il y a une dimension, alors que nous, on appellerait un peu obsessionnelle du côté des collectionneurs. Mais là, ce que j'y vois, c'est une dimension très compétitive, au point où d'ailleurs les enfants se retrouvent un petit peu délaissés. En tout cas, ils n'ont pas forcément les moyens. Donc c'est vrai que cette forme de nostalgie de l'enfance qui fait qu'on est un peu dans une forme d'impuissance et on veut retrouver à nouveau, peut-être à l'âge adulte, une puissance en pouvant avoir les moyens d'acheter les cartes qu'on n'a jamais pu acheter ou pu avoir. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez compétitif, peut-être même pour certains, une forme de dépendance. C'est une question qu'on peut se poser, mais c'est pas dramatique.
Mais sur le lien social, vous confirmez que c'est quelque chose d'essentiel ? On s'échange, on doit développer des stratégies en commun, on n'est jamais seul en fait.
Oui, alors ça c'est vrai que Pokémon Go surtout a pu véritablement créer des communautés. Et d'ailleurs, là c'est une femme de 52 ans, mais j'avais entendu parler de femmes de plus de 70 ans, en tout cas qui, alors surtout... on a souvent tendance à penser que ce sont les garçons qui jouent, pas du tout. Et il y a même plus de 50%.
Ouais.
Oui, c'est vrai, il y a plus de 50% de joueuses. Et là, je pense qu'on en parle peu, mais dans la réalité, les femmes aiment aussi, je me permets cette forme d'ironie, perdre leur temps, qui est souvent un peu, je dirais, le privilège des hommes. Donc je crois que les femmes ont le droit de perdre leur temps à jouer. et surtout à se retrouver. Et rien de mieux quand le virtuel sert le réel. Et je pense que d'autant plus actuellement, c'est important de le préciser, de montrer que voilà, c'est un espace où les gens peuvent se rencontrer réellement, partager des moments. Peut-être ce sont des gens un peu geeks, mais pas que, qui peuvent se retrouver et partager ces moments un petit peu qui pour certains apparaîtraient comme totalement ridicules, mais pas du tout, parce que le jeu, c'est une chose très sérieuse.
Et ce n'est pas genré, donc, Alvin Adaden.
C'est vrai que c'est une des raisons, par exemple, pourquoi Pikachu a été pris comme emblème de Pokémon. Effectivement, il est neutre. À la base, c'était une autre mascotte qui aurait dû représenter Pokémon, qui était un petit Pokémon fée rose, mélofée. Et finalement, Pikachu, qui est à la fois jaune, donc unisexe, très mignon et en même temps très puissant, pouvait plaire aux filles et aux garçons, et ça a été un très bon ambassadeur pour la franchise.
Est-ce qu'on peut prendre Salomé? C'est juste un dernier appel dans la seconde. Ah non, voilà, Salomé nous disait « je reviens du Japon ». Et en fait, alors là, là-bas, Pokémon, c'est absolument partout. D'ailleurs, je crois qu'ils viennent d'ouvrir un parc à thème
en banlieue de Tokyo, effectivement. Plein de vidéos sur YouTube qui montrent que ça a l'air un endroit fabuleux pour se promener, pour prendre des photos. Si on aime les Pokémon, ça a l'air d'être garanti pour les 30 Pokémon.
À quoi faut-il s'attendre le jour anniversaire vendredi? Parce qu'évidemment, ils promettent plein de surprises. À chaque fois, c'est un rendez-vous, c'est ritualisé, c'est très marketé.
Bien sûr, oui, la communauté est là pour tout décrypter, pour réagir à tout. Plein de surprises. Je n'ai pas eu de fuite encore, on est assez dans l'attente. Certainement une nouvelle génération de Pokémon avec encore centaines de nouveaux monstres à découvrir.
Eh bien, merci à vous tous qui avez fait cette émission. Merci à toute l'équipe du 18-20, parce que je peux vous dire qu'il y avait plein de trentenaires dans le bureau et qui m'ont bien aidé à préparer cette émission. Donc, merci à Flore, merci à Pierre, merci à Marius, merci à Marie, vous avez été super.